Nikolaï Vassilievitch Gogol, La Calèche. La petite ville de B se fit plus gaie lorsque le régiment de cavalerie de 3 étoiles vint y tenir garnison. Jusqu'alors, on s'était ennuyé à périr. Quand par hasard on la traverse et qu'on jette un regard sur ces maisonnettes basses en pisé, d'un aspect terriblement morose, une indicible mélancolie s'abat sur vous. On éprouve le vague serrement de cœur qui suit d'ordinaire les lourdes bévues et les fortes pertes au jeu. Bref, on se sent mal à l'aise. La pluie a décrépi les murs, qui de blanc sont devenus pis. Des roseaux recouvrent la plupart des toits, comme il y a de règle dans nos villes du Midi. Pour dégager la vue, monsieur le gouverneur a depuis longtemps fait abattre les arbres des jardinets. Dans les rues, on ne rencontre âme qui vive. Seul un coq traverse parfois la chaussée, à laquelle un demi-pied de poussière donne la souplesse d'un oreiller. À la moindre pluie, cette poussière se transforme en bourbier. De gras animaux que le gouverneur appelle des Français s'y plongent alors avec délice, dressent le groin d'un air grave et font entendre des grognements si rébarbatifs que le voyageur s'empresse de stimuler ses chevaux. Il serait du reste bien difficile de rencontrer un voyageur dans les rues de B. Rarement, bien rarement, un hobereau, un redingote de Nankin, possesseur d'une douzaine d'âmes, s'y traîne dans un véhicule qui tient de la britchka et de la télègue. Perché sur des sacs de farine, il fouaille une jupe en baie que suit en trottinant son poulain. La place du marché elle-même n'incite guère à la gaieté. La maison du tailleur y est bêtement posée de guingois. En face, une bâtisse en pierre à deux fenêtres demeure inachevée depuis 15 ans. Puis vient une palissade à la mode, couleur gris de boue, élevée par le gouverneur pour servir de modèle aux autres édifices, autant lointain de sa jeunesse, alors qu'il n'avait pas encore pris l'habitude de faire la sieste et d'avaler tous les soirs avant de s'endormir une infusion de groseille à maquereau. Tout le reste n'est guère qu'échalier. Quelques échoppes minuscules occupent le centre de la place. On peut y remarquer constamment un chapelet de craquelin, une bonne femme en robe rouge, un pain de savon, quelques livres d'amandes amères, du petit plomb, des cotonnades et deux commis qui passent le plus clair de leur temps à jouer à la svaïka près de la porte. Tout change donc à l'arrivée du régiment de X. Les rues prirent un aspect plus vivant, les maisons basses virent souvent passer un svelte officier à plumet s'en allant chez quelques camarades pour discuter les chances d'avancement ou les qualités d'un nouveau tabac, parfois même pour risquer aux cartes un drotchki qui pouvait s'appeler le drotchki du régiment, car il passait de main en main. Aujourd'hui, un major y trônait. Demain, il ornait l'écurie d'un lieutenant. 8 jours plus tard, l'ordonnance du major s'évertuait de nouveau à le graisser. Des casquettes de soldats ornaient toutes les clôtures. On pouvait être sûr qu'une capote grise pendait à quelques portails. On croisait dans les ruelles des militaires aux moustaches aussi rêches que les crins d'une brosse à chaussures. Ses moustaches se voyaient partout. Une marchande arrivait-elle au marché avec son pigeoir, une moustache surgissait aussitôt derrière son épaule. Les officiers animèrent la société que constituaient jusqu'alors 2 personnes en tout et pour tout. Le juge, qui vivait avec je ne sais quelle diaconesse, et le gouverneur, homme fort sensé, mais qui dormait du matin jusqu'au soir, et du soir jusqu'au matin. Quand le commandant de la brigade eut transféré à B son quartier général, la dite société gagna en nombre ainsi qu'en intérêt. Des gentilshommes campagnards dont nul ne soupçonnait l'existence se mirent à fréquenter la ville afin d'y rencontrer messieurs les officiers, et peut-être d'y tailler une banque, jeu dont leur cerveau, obsédé par les semailles, les lièvres et les commissions de mesdames, leurs épouses, ne rêvait jusqu'alors que confusément. Un beau jour, je ne me rappelle malheureusement plus à quelle occasion, le général donna un grand dîner. Le festin nécessita d'énormes préparatifs. Le bruit des coutelas s'entendait des faubourgs. Tout le marché fut mis à contribution, si bien que le juge et sa diaconesse durent se contenter de galettes de sarrasin et de crème à la fécule. La couronne du général était bondée de calèches et de drotchki. Les invités ne comprenaient que des hommes, les officiers du régiment et quelques propriétaires des environs. Parmi ces derniers, le plus en vue était Pythagorovitch Tchertotrouski, un des aristocrates du district de B, qui menait grand bruit aux élections et s'y rendait en fort bel arroi. Il s'était distingué jadis comme officier de cavalerie. Du moins, partout où son régiment tenait garnison, l'avait-on vu dans tous les bals et assemblées. Les jeunes filles de province, de Tambov et de Simbirsk, en pourraient dire quelque chose. Sa bonne renommée eût sans doute gagné d'autres provinces s'il n'avait été contraint de démissionner à la suite d'un de ces cas auxquels on donne le nom de « fâcheuse histoire ». Avait-il reçu ou donné un soufflet, je ne m'en souviens plus au juste, mais je sais qu'on le mit en demeure de quitter le régiment. Il n'en conserva pas moins toute sa considération. Il portait un habit de coupe militaire à taille très haute, des moustaches et aussi des éperons, afin d'empêcher les gentilshommes de s'imaginer qu'il avait servi dans l'infanterie, arme qu'il méprisait et traitait dédaigneusement de piétaille. Il ne manquait pas une des foires où la province russe, c'est-à-dire les gros propriétaires, leurs femmes et leurs enfants, bien se dénuent du bon temps en britchka, tarantas et autres guimbardes, comme personne n'en a jamais vu, même en songe. Un régiment de cavalerie tenait-il garnison quelque part? Il repérait aussitôt l'endroit et s'y rendait en calèche légère. Il en sautait fort adroitement devant messieurs les officiers, et devenait leur ami avec une rapidité qui tenait du prodige. Lors des dernières élections, il avait, au cours d'un excellent dîner offert aux gentilshommes, déclaré que s'il l'élisait maréchal, il les mettrait tous sur le meilleur pied. Bref, il vivait en barine, comme on dit dans nos provinces. Il avait épousé une assez jolie fille qui lui avait rapporté en dot 200 âmes et quelques milliers de roubles. L'achat de 6 beaux chevaux, de serrures dorées, d'un singe apprivoisé et l'engagement d'un majordome français engloutirent aussitôt le capital. Quant aux 200 âmes, il les mit en gage au crédit foncier ainsi que les 200 qui lui appartenaient en propre afin de se lancer dans des opérations commerciales. En un mot, c'était un propriétaire tout à fait à la hauteur, tout à fait comme il faut. Quelques homereaux assistaient encore au dîner du général, mais de cela mieux vaut ne pas parler. Les officiers du régiment, y compris le colonel et le gros-major, complétaient les convives. Le général était lui aussi de forte complexion. Ses subordonnés le tenaient pour un excellent chef. Il parlait d'une voix de basse, forte et imposante. Le menu sortait de l'ordinaire. Esturgeon, beluga, sterlet, outarde, caille, perdrix, asperges, champignons, démontraient que, depuis la veille, le maître queue ne s'était rien mis sous la dent. En outre, 4 soldats, coutelas en main, l'avaient aidé toute la nuit à préparer gelées et fricassées. La kyrielle des bouteilles, bouteille de Bordeaux à long col, bouteille de Madère pansue, la magnifique journée d'été, les fenêtres grandes ouvertes, les assiettes de glace déposées sur la table, les plastrons froissés sous les amples habits, le feu croisé des conversations arrosées de champagne et dominé par la voix du général, tout cela s'harmonisait on ne peut mieux. Les convives se levèrent de table en éprouvant à l'estomac une agréable lourdeur. Ils allumèrent aussitôt Brûle-Gueule et Chibouk, prirent en main leur tasse de café et passèrent sur le perron. Voici le moment de l'examiner, dit le général. S'il te plaît, mon cher, continua-t-il en s'adressant à son aide de camp, jeune homme aux manières aisées et à l'extérieur agréable, fais-nous amener la jument baie. Vous jugerez vous-même, messieurs. Ici, le général tira une bouffée de sa pipe. Elle n'est pas encore suffisamment soignée, que voulez-vous? Il n'y a pas d'écurie convenable dans ce maudit trou. Mais c'est une bête, oh, pouf, pouf, pouf. Il y a longtemps que votre excellence, pouf, pouf, en a fait l'exquisition, demanda Tcherkolkowski. Pouf, 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 pouf. Non, pas précisément, voilà 2 ans que je l'ai prise au haras. Et c'est ici que votre excellence l'a dressée, ou bien était-elle déjà? Pouf, 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 c'est ici, c'est ici. Sur ces mots, le général se perdit dans un nuage de fumée. Un soldat se précipita hors de l'écurie. Un bruit de sabots s'y éleva. Un autre militaire à blouse blanche, pourvu d'énormes moustaches noires, apparut, menant par la bride un cheval ombrageux. La bête fit un brusque écart et faillit d'un coup de tête lancer en l'air le militaire et ses moustaches. « tout beau, Agrafena Ivanovna !» suppliait-il en l'amenant au perron. La jument s'appelait Agrafena Ivanovna. Robuste, farouche comme une belle fille du midi, elle frappait du sabot le perron de bois, mais bientôt elle s'immobilisa. Le général, abandonnant sa pipe, considéra d'un air satisfait Agrafena Ivanovna. Le colonel en personne descendit les marches du perron et prit Agrafena Ivanovna par les naseaux. Le major vint lui tapoter la jambe. Les autres invités firent entendre des claquements de langue admiratifs. Tchertokulski descendit lui aussi et s'approcha de la bête par derrière. Sans lâcher la bride, le soldat rectifia la position. Il fixait les invités comme s'il eût voulu leur sauter aux yeux. « très beau cheval !» déclara Tchertokulski. « Puis il me permet de demander à votre excellence s'il a de bonnes allures ?»« Oh, son pas est excellent. Mais cet idiot de vétérinaire lui a fait avaler je sais quand quelques pilules et voilà 2 jours qu'elle essaie d'éternuer. »« très beau cheval. Votre excellence possède sans doute une voiture en rapport avec la bête. »« Une voiture, mais c'est un cheval de selle. » « je sais. Non, je voulais demander si votre excellence possède une voiture en rapport avec ses autres chevaux. »« Oh, à part les francs, je suis pas trop bien monté en voiture. »« J'aimerais avoir une de ces calèches comme on en fait aujourd'hui. »« J'en ai écrit à mon frère qui est en ce moment à Pétersbourg, mais je sais encore s'il m'en enverra une. » « Selon moi, excellence, insinua le colonel, il n'est belle calèche que de Vienne. »« Très juste, pouf, pouf, pouf. »« Eh bien, excellence, reprit Tchertokovski, je possède justement une superbe calèche viennoise. »« Celle de laquelle vous êtes venu ? Oh non, 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 celle-là c'est une voiture de louage. »« L'autre est d'une légèreté étonnante, une plume. » Et quand on y est installé, on se croirait vraiment dans un berceau. Alors elle est très confortable, très confortable, et quel coussin, quel ressort, un vrai tableau. Parfait, et spacieuse avec cela. Excellent, je n'en ai jamais vu de pareil. Quand j'étais au service, je mettais dans la caisse 10 bouteilles de rhum, 20 livres de tabac, 6 uniformes, du linge, 2 chibouks d'une longueur extraordinaire, et dans les poches on aurait fourré un bœuf entier. Parfait. Je l'ai payé 4 000 roubles, excellence. Oh, ce prix-là, elle peut être belle. Vous l'avez commandé vous-même ? Non, excellence, je l'ai eu d'occasion. Elle appartenait à un de mes amis d'enfance, un homme rare. Votre Excellence serait parfaitement entendue avec lui. Nous vivions en frères et ne distinguions pas le tien du mien. Je lui ai gagné aux cartes. Votre Excellence voudrait-elle me faire l'honneur de venir dîner demain chez moi? Par la même occasion, je lui montrerai la calèche. Bon, je ne sais que vous répondre. Seul, cela me paraît... À moins que vous me permettiez à quelques officiers de m'accompagner. Oh, mais certainement, j'invite aussi messieurs les officiers. Messieurs, je serais fort honoré de vous voir chez moi. À mon avis, Excellence, quand on achète quelque chose, il faut prendre du beau, autrement le jeu n'en vaut pas la chandelle. Demain, quand j'aurai l'honneur de vous recevoir, je vous montrerai certaines de mes acquisitions. Le général considéra Tcherkovski à travers un nuage de fumée. Satisfait de son invitation, notre homme commandait mentalement ragoûts et pâtés et promenait des regards joyeux sur messieurs les officiers qui, de leur côté, prêtaient à sa personne une attention plus marquée. Cela se devinait à l'expression de leurs yeux et aux petits mouvements de têtes obséquieux qu'ils lui adressaient. Tcherkovski prit une attitude désinvolte et sa voix s'abolit, indice de profond contentement. Votre Excellence fera connaissance avec la maîtresse du logis. J'en serai fort heureux, dit le général en caressant ses moustaches. Tcherkovski voulut aussitôt entrer chez lui afin de tout préparer pour la réception du lendemain. Il avait déjà pris son chapeau. Mais je ne sais trop pourquoi, il s'attarda quelques instants. Cependant, on avait disposé dans l'appartement des tables de whist autour desquelles toute la compagnie s'installa bientôt par groupe de quatre. On apporta des bougies. Tcherkovski hésita longtemps à prendre part au whist. Messieurs les officiers, y conviant, il estima qu'un refus serait contraire aux règles du bon ton. À peine assis, il trouva devant lui un verre de punch que, par distraction, il avala d'un trait. Après avoir fait deux robres, il trouva sous sa main un nouveau verre de punch que, par une nouvelle distraction, il avait également, non sans avoir déclaré « Vraiment, messieurs, il est grand temps de me retirer !» Il se laissa pourtant entraîner dans une nouvelle partie. Cependant, la conversation jusqu'alors générale s'émiettait en entretien particulier. Si les joueurs ne parlaient guère, les autres invités, assis à l'écart, sur des divans, bavardaient à l'envi. Dans un coin, un capitaine en second, la pipe aux dents, un coussin sous la hanche, racontait avec assez de verve ses aventures amoureuses, un cercle d'auditeurs suspendus à ses lèvres. Un hobereau d'un embonpoint extraordinaire, dont les petites mains trapues ressemblaient à des pommes de terre rabougries, l'écoutait, la mine doucereuse. Par instants, il rejetait son bras court derrière son vaste dos et s'efforçait d'atteindre sa tabatière. Dans un autre coin, une discussion assez vive s'éleva à propos des exercices d'escadron. Tcherkovski, qui avait déjà joué deux fois un valet pour une dame, s'avisa soudain d'y prendre part. Il criait de sa place « Ah, quelle année ?» ou « Dans quel régiment ?» sans s'apercevoir que ces questions tombaient à côté. Enfin, quelques minutes avant le souper, le whist prit fin pour se continuer en parole. Les têtes paraissaient pleines de ce jeu. Tout en se rappelant qu'il avait beaucoup gagné, Tcherkovski se leva pourtant sans rien empocher et demeura longtemps dans l'attitude d'un monsieur qui a oublié son mouchoir. On servit le souper, les vins n'y furent point épargnés, bien entendu, et Tcherkovski, qui avait une bouteille à sa droite et une autre à sa gauche, se vit parfois obligé, presque inconsciemment, de remplir son verre. Une longue conversation s'engagea que les convives menèrent d'étranges façons. Un colonel au vieux débris de 1812 raconta une bataille qui n'avait jamais eu lieu, puis, sans qu'on sût trop pourquoi, enfonça dans un gâteau un bouchon de carafe. Bref, on ne se sépara qu'à 3 heures du matin. Certains cochers durent emporter leur maître à bras-le-corps comme des ballots. Et dans la calèche, Tchertkovski, malgré tout son aristocratisme, branlait si fort du chef et l'inclinait si bas qu'il ramena 2 gloutrons dans sa moustache. Tout le monde dormait quand il rentra chez lui. Le cocher trouva à grand-peine le valet de chambre qui guida son maître à travers le salon et le remit aux mains d'une soubrette. Avec l'aide de celle-ci, Tchertkovski gagna la chambre à coucher et s'étendit auprès de sa charmante jeune femme, délicieuse dans un déshabillé d'une blancheur de neige. La chute de son mari sur le lit la réveilla. Elle s'étira, fronça le sourcil, clignota par 3 fois, ouvrit enfin les yeux dans un sourire mi-fâché, mais voyant que pour cette fois son époux se refusait à toute caresse, elle se retourna de l'autre côté et se rendormit aussitôt, la joue sur le bras. La jeune maîtresse de maison se réveilla à 1 heure plutôt tardive, en jugée du moins par les habitudes de la campagne. Son mari ronflait toujours. Se rappelant qu'il était rentré vers 4 heures du matin, elle eut pitié de le réveiller. Elle enfila des pantoufles qu'il lui avait fait venir de Pétersbourg, et drapée dans un peignoir dont les plis retombaient en cascade autour d'elle, elle gagna son cabinet de toilette, s'y lava avec une eau aussi fraîche que sa personne, et s'installa devant son miroir. 1 ou 2 coups d'œil la convainquirent que ce matin-là, elle n'était vraiment pas mal. Cette circonstance futile en apparence la contraignit à se mirer pendant plus de 2 heures. Elle finit pourtant par s'habiller fort gentiment et s'en fut prendre l'air du jardin. Il faisait une des plus radieuses journées d'été dont le midi puisse s'enorgueillir. Le soleil arrivé au zénith dardait des rayons embrasés. Mais, échauffées par lui, les fleurs exhalaient des parfums 3 fois plus capiteux, et sous les sombres allées, la fraîcheur invitait doublement à la promenade. La charmante dame oublia tout à fait qu'il était midi et que son mari dormait encore. Déjà, son oreille percevait le ronflement des 2 cochers et du valet de pied qui faisaient la sieste dans l'écurie voisine. Elle demeurait pourtant assise dans une allée ombreuse qui, du jardin, s'allongeait vers la grande route, et elle en contemplait distraitement l'étendue déserte. Soudain, un nuage de poussière qui apparut dans le lointain attira son attention. Elle distingua bientôt plusieurs voitures. Dans la première, une calèche légère à 2 places, se tenait le général dont les grosses épaulettes brillaient au soleil. Le colonel l'accompagnait. Une seconde calèche à 4 places, celle-ci, suivait la première. Un major, l'aide-de-camp du général et 2 autres officiers l'occupaient. Venait ensuite le fameux Drotchki du régiment. Le gros major en était pour cette fois le propriétaire. Un beau voyage à 4 places apparaissait derrière le Drotchki. 4 officiers s'y carraient avec 1/5 sur les genoux. Et derrière le bon voyage, on devinait 3 officiers qui chevauchaient de superbes baies pommelées. Viendrait-il chez nous ? Songea la maîtresse de maison. Oh mon Dieu ! Voilà qu'ils prennent par le pont. Elle poussa un cri, leva les bras et courut à travers les plates-bandes, tout droit jusqu'à la chambre de son mari. Il dormait à poing fermé. « Lève-toi, lève-toi vite » cria-t-elle en lui secouant le bras. « Hein ?» murmura Tchertkovski en s'étirant sans ouvrir les yeux. Lève-toi, Coco, vite, vite, voici des visites. Des visites, quelles visites ? Sur ces mots, il émit un son semblable au meuglement d'un veau quand il cherche du museau la tétine de sa mère. « Mais !» beugla-t-il. « Tends-moi ton cou, cocotte, que je le baise !»« Chérie, au nom du ciel, lève-toi ! Le général et ses officiers nous arrivent. Oh, mon Dieu, t'as un gloutron dans la moustache !»«
Le général, déjà, mais pourquoi diable ne m'a-t-on pas réveillé ?»
Le dîner est-il prêt, au moins?
Mais quel dîner?
N'ai-je pas commandé?
Mais tu es revenu à 4 heures du matin. J'ai eu beau t'interroger, tu n'as rien voulu me répondre. J'ai eu pitié de te réveiller, Coco. Tu n'as pas dormi de la nuit.
Elle prononça ces derniers mots d'une voix langoureuse, suppliante. Tchertogouski écarquilla les yeux et demeura quelques instants comme frappé de la foudre. Finalement, il sauta du lit en chemise, sans se soucier des convenances.
« Brute bourrique, idiot que je suis !» dit-il en se frappant le front.
« Je les ai invités à dîner, mais que faire? Sont-ils encore loin ?»«
Ils vont arriver d'un moment à l'autre.
Oh chérie, cache-toi !» Oh là, quelqu'un! Écoute, petite, n'aie pas peur, voyons. Il va venir des officiers. Tu leur diras que monsieur est sorti. Il reviendra pas de la journée. Entends-tu? Et préviens tous les domestiques. Les vite, vite, file!
Sur ce, il enfila sa robe de chambre et courut se cacher dans la remise, croyant qu'il y serait complètement en sûreté. Mais une fois réfugié dans un coin, il se rendit compte qu'on pouvait l'y apercevoir.
« Oh, voilà qui vaudra mieux !» songea-t-il soudain. Aussitôt, il baissa le marchepied de la calèche auprès de laquelle il se trouvait, se jeta dedans, ferma la portière et, recroquevillé dans sa robe de chambre, s'immobilisa non sans avoir eu soin pour plus de sûreté de rabattre sur lui le tablier. Cependant, les voitures s'arrêtaient au perron. Le général quitta la sienne en s'ébrouant. Derrière lui, le colonel remit de l'ordre dans son plumet. Le gros major, son sabre sous le bras, sauta à bas du droshky. Puis les sous-lieutenants et l'enseigne qu'ils tenaient sur leurs genoux s'élancèrent hors du bon voyage. Enfin, les 3 avantageux cavaliers mirent pied à terre.
« Monsieur est absent !» dit un valet apparu sur le seuil.
Comment absent, mais il reviendra pour dîner, j'espère.
Non, il est parti pour toute la journée. Il ne sera de retour que demain vers 7 heures-ci.
Ah, bon, que dites-vous de cela ? Demanda le général.
J'avoue que pour une plaisanterie, dit le colonel en riant.
Mais qu'allons-nous faire ? Reprit le général mécontent. « S'il ne pouvait pas nous recevoir, pourquoi diantre nous inviter ?»«
Vraiment, excellent, je ne comprends pas qu'on puisse agir de la sorte, » déclara un jeune officier.
« Hein ?» dit le général, qui usait de cette particule chaque fois qu'il adressait la parole à un officier subalterne.
« Je disais, excellence, qu'on n'agit pas de la sorte. »«
Évidemment, quand il vous arrive à l'empêchement, on prévient les gens, ou on ne les invite pas du tout. »
« Eh bien, excellence, dit le colonel, il ne lui reste plus qu'à nous en retourner. »«
Mais évidemment, pourtant attendez, nous pouvons toujours voir la calèche, il ne l'a sans doute pas emportée avec lui. »« Et l'ami approche. »«
Qu'ordonne votre excellence ?»«
Tu es sans doute palefrenier. »«
Tout juste, votre excellence. »
« Fais-nous voir la calèche que ton maître a acquise récemment. »«
Si vous voulez bien me suivre dans la remise. » Le général et tous ses officiers gagnèrent la remise.
« Ah, la voilà. Attendez, il fait un peu sombre. Je vais la rouler au grand jour. »
Le général et ses officiers firent le tour de la calèche en inspectant soigneusement les roues et les ressorts.
Mais n'y voit rien de particulier, déclara le général. C'est une calèche très ordinaire.
Tout ce qu'il y a de plus ordinaire, renchérit le colonel.
Il me semble, Excellence, qu'elle ne vaut pas 4 000 roubles, insinua l'un des jeunes officiers.
Hein? Oui, je dis, Excellence, qu'elle ne semble pas valoir 4 000 roubles.
4 000 roubles, même pas la moitié. À moins que l'intérieur ne présente quelques particularités. Alors, l'ami, relève le tablier.
Tchertakovski, tout recroquevillé dans sa robe de chambre, apparut aux yeux des officiers.
Ah, vous voilà, dit le général stupéfait.
Sur ces mots, le général rabattit le tablier sur Tchertakovski, referma la portière et s'enfuit aussitôt, suivi de messieurs les officiers.